Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Partons tout de suite pour les titres de cette édition de notre programme, avec tout d'abord la semaine du pape. Elle reviendra sur l'actualité du Saint-Père qui a célébré jeudi 13 mars son 12e anniversaire de pontificat. Malade, le pape est hospitalisé depuis le 14 février à la polyclinique Gemelli à Rome. Dans cette édition, il sera également question de cette lettre sur le processus d'accompagnement de la phase de mise en œuvre du synode sur la synodalité qui s'est achevée en octobre 2024 à Rome. Le 11 mars, le pape François a fixé le début d'un chemin qui conduira à une assemblée ecclésiale dans 3 ans, consolidant ce qui a été accompli jusqu'alors sans convoquer un nouveau synode. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les textes liturgiques du deuxième dimanche de Carême, place sera faite à notre invité du jour, Philippe Abraham Matine. Le président du Conseil national du laïcat du Sénégal reviendra sur la rencontre de travail qui a eu lieu jeudi 13 mars avec le directeur des affaires religieuses du Sénégal, Dr Jim Dramé. Cette rencontre qui a eu lieu au siège du Conseil national du laïcat a permis d'aborder plusieurs sujets essentiels.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Commençons le développement de ces titres par la semaine du pape, et c'est avec Christian Lossambé.
L'état de santé du pape François est stable, raison pour laquelle les médecins qui le soignent à l'hôpital Gemelli depuis 4 semaines n'ont pas jugé utile de publier un bulletin médical dans la soirée du vendredi, comme cela avait été prévu auparavant. Aucune nouveauté n'est à relever concernant le tableau clinique du souverain pontife, ce qui est un élément positif. Le pape récupère lentement et il faut du temps pour que les améliorations se consolident. Au vu de cette situation, la salle de presse du Saint-Siège a informé qu'il n'y aura plus de communication sur la manière dont le pape a passé la nuit, ni d'informations complémentaires dans la matinée. Seule une communication sera donnée dans la soirée. Au Vatican, les membres du corps diplomatique près le Saint-Siège ont prié vendredi 14 mars dans la chapelle Pauline du Palais apostolique pour l'intercession du pape François. Célébrant la messe dans la matinée, le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a rappelé dans son homélie la célébration la veille du 12e anniversaire du pontificat de François. Dans ce contexte, notre prière devient encore plus intense et plus vive. Il ne s'agit pas d'exprimer des demandes au Seigneur, car Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais de lui offrir notre cœur ouvert et attentif à ses paroles, a exhorté le prélat, soulignant que l'écoute de la parole de Dieu est la clé qui ouvre le cœur du Seigneur. Des prières et des remerciements pour le témoignage de foi, d'espérance et des forces du souverain pontife depuis l'hôpital Gemelli de Rome ont donc afflué du monde entier jeudi 13 mars en mémoire de la date à laquelle François a été élu sur le trône de Pierre il y a 12 ans. À cette occasion, le personnel médical qui assiste le Saint-Père a organisé un bref moment pour célébrer cet anniversaire. Au cours de cette semaine, le pape François a suivi par vidéo le déroulement des exercices spirituels de la curie romaine, dirigée par le père capucin Roberto Pasolini dans la salle Paul VI au Vatican. Au terme de sa dernière prédication, le père Pasolini a adressé ses remerciements à tous les participants à ce moment de prière et de méditation du 9 au 14 mars, spécialement au Saint-Père qui, depuis la polyclinique Gemelli de Rome, a été en communion spirituelle avec chacun d'eux. Au chapitre des nominations, l'évêque de Rome a nommé samedi nonce apostolique au Burkina Faso, Monseigneur Giancarlo Della Giovanna, l'élevant en même temps au siège titulaire de Sistro Niana avec la dignité d'archevêque. Il était jusqu'à présent conseiller de nonciature auprès de la section des affaires générales de la secrétaire d'État. Et dans la matinée du lundi, le pape François a exprimé sa solidarité envers les victimes des inondations en Argentine. La ville portuaire de Bahia Blanca a été dévastée par des pluies torrentielles entraînées par une forte tempête vendredi 7 mars. Au moins 16 personnes ont perdu la vie et près d'une centaine sont portées disparues.
Merci à vous, Christian Lossambé. Toujours hospitalisé, la prière du rosaire qu'organise la secrétaire d'État du Saint-Siège et le diocèse de Rome pour le rétablissement du pape François s'est poursuivie samedi, place Saint-Pierre. Elle a été animée par le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et conduite par son secrétaire général, Mgr Emilio Nappa. Poursuivons cette édition, pas un nouveau synode, mais une assemblée ecclésiale. C'est celle qui se tiendra au Vatican en octobre 2028 et qui sera précédée d'un cheminement d'accompagnement. C'est ce qu'a annoncé le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode, dans une lettre envoyée à tous les évêques et épacs ainsi qu'aux patriarches et archevêques majeurs des églises orientales catholiques qui a été partagée samedi 15 mars. L'accompagnement mentionné a été approuvé par le pape le 11 mars dernier et concerne la phase de mise en œuvre du synode qui s'est achevée après un voyage de 3 ans en 2024 et a porté sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». Le document final de cette 16e Assemblée Générale fait partie du magistère ordinaire du successeur de Pierre et en tant que tel doit être accepté. Dans un communiqué publié à l'issue de leur première assemblée plénière de l'année et qui s'est tenue du 8 au 14 mars dernier, les membres de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria et dans un esprit du jubilé 2025 ont demandé au président de la République nigériane, Bola Ahmed Tinubu, d'accorder l'amnistie à Sunday Jackson, un agriculteur de l'État d'Adamawa qui aurait tué un éleveur peul en 2015 dans le cadre de ce qu'il affirme être un cas d'autodéfense. Au Malawi, dans une récente déclaration, les évêques catholiques du pays ont dénoncé plusieurs maux qui minent l'ensemble de la société et ont exhorté à une véritable conversion des cœurs si le pays veut connaître la résurrection. Les évêques catholiques du Malawi ont également mis en garde les jeunes contre le fait de suivre aveuglément les politiciens alors que le pays se prépare aux élections générales du 16 septembre prochain. Autre grande articulation de cette édition, l'actualité sociopolitique. La présidence sud-africaine a pris acte de l'expulsion regrettable de l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis d'Amérique, Ebrahim Rasool. Elle s'est cependant dite déterminée à construire une relation mutuelle bénéfique avec Washington face à cette décision qui s'inscrit dans un contexte de durcissement des relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré vendredi l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis persona non grata, l'accusant notamment de haïr le président américain Donald Trump. Le gouvernement nigérien a fermement nié vendredi les accusations d'un membre du Congrès américain selon lesquelles les chrétiens seraient victimes de persécutions au Nigeria. L'ONG Human Rights Watch a appelé vendredi le gouvernement burkinabé à enquêter sur les massacres de civils en début de semaine par des hommes accusés d'appartenir aux forces de sécurité, des exactions qualifiées de manipulation par les autorités burkinabées. Place à présent au père jésuite Rigobert Kyungo qui nous introduit à la méditation avec les lectures du deuxième dimanche du temps de carême.
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de carême de l'année liturgique C. Ces lectures nous invitent à tenir bon dans les épreuves et à croire dans les promesses du Seigneur, même par-delà la mort. La première lecture nous parle de la promesse de Dieu d'accorder une descendance nombreuse à Abraham. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Cependant, cette promesse du Seigneur ne sera pleinement réalisée qu'après la mort d'Abraham. En effet, même par-delà la mort, Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Dans la deuxième lecture, saint Paul exprime sa tristesse de voir beaucoup de gens se conduire en ennemis de la croix du Christ. Il s'agit de ceux qui ne supportent pas leurs épreuves dans la foi et qui ne recherchent que le plaisir de ce monde. Leur Dieu, dit-il, c'est leur ventre. Par ailleurs, il affirme aussi que Jésus est capable de tout dominer, même la mort. car vu sous l'angle de la foi, la mort est tout simplement un départ, un voyage et un passage vers le monde de la gloire. En effet, bien qu'elle sera pleine que dans le monde à venir, la gloire de Dieu est déjà présente dans notre monde. Et il y a des moments où Dieu la déploie pour nous en donner un avant-goût. En effet, tant dans la première lecture que dans l'Évangile, Dieu déploie sa puissance et permet à l'homme d'expérimenter un tant soit peu sa gloire. Ainsi, Abraham a été témoin de la manière dont le brasier fumant et une torche enflammée sont passés au milieu des animaux qu'il avait dépecés. Et dans l'Évangile, c'est Pierre et ses compagnons qui voient Jésus être transfiguré et son habit devenir blanc, d'une blancheur éblouissante. L'épisode de la transfiguration de Jésus préparait les disciples face aux épreuves qui allaient advenir, notamment la passion et la mort de Jésus. C'est d'ailleurs le sujet autour duquel Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie qui sont apparus sur la montagne. Jésus préparait donc ses disciples à rester fermes dans la foi afin d'accepter le scandale de la croix. En effet, la foi nous permet de croire qu'un événement comme la mort n'est qu'un passage vers la maison du Père pour jouir de sa gloire éternelle. Par ailleurs, remarquons que c'est en plein exercice de prière que la transfiguration a eu lieu pour Jésus. Certes, Jésus parlait régulièrement à Dieu dans la prière. Nous sommes aussi invités à prier sans relâche pour rester en communion avec Jésus et avec son Père. C'est ainsi que nous pourrons porter et assumer notre croix avec joie et sérénité. Car il y a du bonheur à rester près de Jésus, même dans les épreuves. C'est le bonheur dont Pierre a fait l'expérience lorsqu'il s'est écrié « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ». Mais la prière exige du silence. Peut-être que Pierre aurait dû se taire plus tôt, afin d'entendre ce que se disaient les trois personnages de la scène. Il nous revient de créer du silence en nous et autour de nous, afin d'écouter Jésus, le Fils bien-aimé que Dieu a choisi pour nous parler, nous consoler et nous manifester sa gloire. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur la grâce de rester ferme dans notre foi et de croire toujours en la puissance de sa gloire par-delà les épreuves. Amen.
Le Conseil national du laïcat du Sénégal a reçu jeudi 13 mars, à son siège à Dakar, la capitale sénégalaise, la visite du directeur des affaires religieuses du pays, Dr Jim Ousmane Dramé. Au cours de cette rencontre, il a été notamment question de la prise en charge des séminaires, de l'achèvement des travaux du sanctuaire marial de Popongine, ainsi que d'autres questions nécessitant un approfondissement. Philippe Abraham Tine est le président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Il nous situe davantage sur les sujets abordés au cours de cette rencontre.
Le président Dramé de cette direction nous a présenté les orientations et les objectifs de cette direction, ce que nous avons apprécié. Et l'objectif, c'était de créer un cadre qui permettait des relations plus institutionnalisées entre l'État et les religions. C'est fondamentalement cela, afin de faciliter la cohésion et le vivre ensemble. Parce que le Sénégal est un pays avec beaucoup de sensibilité. Et si on crée un cadre de concertation, un cadre institutionnel, ça permet à toutes les religions de voir leurs préoccupations prises en compte. Donc c'est comme cela qu'il a expliqué. Nous avons compris que l'État voulait tendre la perche aux différentes religions afin de contribuer à faire de ces religions vraiment un canal pour la construction du Sénégal.
Quelles ont été vos préoccupations lors de cette rencontre ?
De notre côté, parmi les préoccupations, nous avons soulevé la question relative à l'enseignement de la catéchèse. Parce que nous avons remarqué que depuis la décision de l'État qui consistait à créer les possibilités de l'enseignement religieux dans le public, les choses n'avaient pas tellement bougé du point de vue de l'Église catholique, mais du côté de l'islam, il y a des maîtres coraniques qui étaient recrutés. Et en termes d'équité, il fallait rétablir les choses. Donc nous lui avons posé la question, le problème, et je pense qu'il a été assez réceptif. Il y a aussi la question de la prise en charge des séminaires, les maisons de formation en général. C'est une question importante si on veut former une élite religieuse de travailler dans ce sens. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État devra nous accompagner. De la même manière qu'il y a une large politique pour le développement des daras, nous avons dit que les daras étaient pour nous nos séminaires dans l'Église catholique. Et il a été réceptif aussi à ce niveau-là. Et je pense que la réflexion va être menée pour aller dans ce sens-là. L'autre question, c'est la question du pèlerinage national. Nous savons tous que notre pèlerinage national se tient à Popongine. Et le chantier a été commencé depuis 3-4 ans. Et jusqu'à présent, il n'est pas achevé. Et le président de la République avait pris l'engagement de faire quelque chose dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, les choses traînent. On a attiré l'attention dans ce sens-là. Donc, autant de questions qu'on a eu à soumettre au directeur des affaires religieuses. Il a pris bien note. On a convenu de se retrouver pour des sessions de travail qui nous permettront, à terme, d'avoir un document et de les aider à bien prendre en charge les préoccupations de notre communauté.
Pourrait-on s'attendre à une réponse favorable de la part de la direction des affaires religieuses du Sénégal?
J'ai ressenti une grande disponibilité du directeur des affaires religieuses et une grande ouverture. Et cette ouverture vraiment augure une bonne collaboration. Nous sommes sûrs que si on se met ensemble, ces questions pourront trouver une solution heureuse. Et je n'en doute pas, d'autant plus que ici au Sénégal, généralement, il y a une inclusion dans ce qu'on fait. Il y a le dialogue qui se fait de façon naturelle. Et l'État, je pense, fera tout pour renforcer cette cohésion. En tout cas, c'est ce qui a motivé la création de cette direction des affaires religieuses. Et si le directeur fait le tour des confessions religieuses, je crois savoir que c'est pour avoir des éléments qui pourront dégager une orientation précise et sérieuse qui aideront vraiment à faire quelque chose dans ce sens-là.
Pensez-vous que cette initiative, la mise en place de cette direction des affaires religieuses, pourrait porter beaucoup de fruits pour toutes les communautés religieuses du Sénégal?
Oui, c'est ensemble que nous devrons travailler à ce que chacun joue son rôle. On sait que le Sénégal est un pays profondément religieux et faire contribuer les religieux dans la marche du pays, vraiment c'est un avantage. Parce qu'on sait que beaucoup de crises ont été désamorcées par les religieux, par des appels, et des actions concrètes. Donc cela veut dire que l'État est au courant de cela. L'État en est conscient et l'État fera tout vraiment pour faire des religions un partenaire privilégié stratégique pour résoudre toutes ces équations liées à la pacification de l'espace. Parce qu'on sait que dans la sous-région, il y a un bouillonnement, il y a de l'instabilité. Et le Sénégal sert presque comme une île au milieu de tout cela. Il faut saisir toutes les opportunités pour préserver et sauvegarder ce cadre-là. En tout cas, j'ai bon espoir. Bien entendu, il faudrait que chacun y mette du sien. Il faudrait que tous les partenaires jouent le jeu. L'État doit jouer son rôle. Les communautés religieuses doivent jouer leur rôle, mais aussi les membres de ces communautés religieuses, c'est-à-dire que le croyant lambda, doit jouer son rôle pour éviter tout ce qui est désinformation et accroître et surtout aller vers la connaissance mutuelle. Parce que c'est quand on ne se connaît pas qu'il y a des conflits. Mais si on travaille à se connaître, il y a moins de conflits et je pense qu'on pourra pacifier notre espace.
Philippe Abraham Tine, président du Conseil du laïcat du Sénégal.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition que j'ai eu un grand plaisir à vous la présenter. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt. Oh, j'ai péché.